Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette nouvelle série de cours. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors vous le savez, cette année nous délaisserons provisoirement peut-être les rivages du Pacifique pour ceux, non moins agités, des débats sur l'universalisme. Après avoir étudié l'an dernier les premiers contacts entre Européens et Tahitiens, après avoir suivi les destins d'Aotourou, de Maï, de Tupaya, de Paotou, c'est pour vous rappeler à ceux qui étaient là l'an dernier quelques souvenirs, nous allons nous placer cette année à un autre niveau de généralité. Au fond, il s'agit de reprendre les mêmes questions, mais sous un angle différent et à une autre échelle. L'enjeu étant toujours de comprendre comment les Lumières ont pensé leur rapport au monde, comment les philosophes du XVIIIe siècle ont essayé d'articuler d'une part une pensée héroïque de l'arrachement au passé par la force de la raison, et d'autre part une autocritique teinté de doute et de scepticisme devant le spectacle de la diversité humaine. Alors, les premières séances, je préfère vous en prévenir, sembleront peut-être un peu abstraites, inutilement austères au regard des aventures océaniques de l'an dernier, mais vous verrez, ne perdez pas patience, nous allons rapidement, au fur et à mesure des semaines, aborder des questions plus concrètes et rencontrer des personnages et des trajectoires presque aussi étonnants. D'ailleurs, nous n'abandonnerons pas totalement Tahiti, et pour être franc, je ne me donne pas plus de 45 minutes avant d'y revenir. Alors, l'universalisme. Alors, il ne vous a pas échappé, je pense, que le terme est désormais omniprésent, il sature le débat public, les livres et les numéros de revues se multiplient, qui enjoignent de le défendre ou au contraire de s'en débarrasser, au point que l'on pourrait presque parler d'un chantage à l'universalisme où chacun est sommé de choisir son camp. Alors, vous voyez ici, ça marche, voilà, quelques échantillons de ce déluge éditorial. À vrai dire, personne ne se donne la peine de définir précisément cet universalisme que l'on se lance à la tête de part et d'autre, alors qu'il s'agit d'une notion éminemment complexe. Il faudrait commencer par distinguer plusieurs registres. D'abord, un universalisme épistémologique qui s'oppose au relativisme et affirme qu'il est possible de tenir un discours universellement vrai sur le monde réel. On peut même le qualifier d'universalisme métaphysique, comme le fait ma collègue Claudine Tircelin, qui lui a consacré un cours il y a 2 ans et auquel je vous renvoie. Deuxièmement, un universalisme moral qui pose la question de la pluralité des valeurs et donc de la possibilité de juger ou de critiquer une culture à partir de principes et de règles qui lui sont extérieurs. Enfin, un universalisme politique qui, surtout en France, désigne une certaine conception de la citoyenneté, résolument méfiante envers toutes les appartenances à d'autres collectifs que la communauté nationale. Alors, ces différents registres, bien sûr, interfèrent dès lors qu'il s'agit de penser ensemble l'unité anthropologique du genre humain et la diversité historique et culturelle des sociétés humaines, de leur langue, de leurs croyances et de leur système normatif. Mais il se situe néanmoins sur des registres argumentatifs différents. Et il relève d'ailleurs de disciplines des sciences humaines distinctes. Pour simplifier, et dans l'ordre, la philosophie, l'anthropologie et l'histoire ou la théorie politique. Or, lorsqu'on parle d'universalisme dans le débat public, très souvent, ce sont toutes ces dimensions qui sont convoquées à la fois dans une confusion assez déroutante. Comme si, par exemple, défendre l'enseignement des langues régionales impliquait d'affirmer l'incommensurabilité des cultures ou de sombrer dans un relativisme sceptique à l'égard de toute vérité scientifique. C'est le paradoxe, évidemment, d'un concept philosophique exigeant et même technique, l'universalisme, devenu un mot d'ordre politique, un slogan, d'autant plus efficace qu'il est équivoque. Alors, il existe toutefois un point d'ancrage qui nous concerne directement. Dans un nouveau dictionnaire des idées reçues, on pourrait lire certainement « universalisme », personne ne sait ce que c'est, mais ce sont les Lumières qui l'ont inventé. Ce qui est une évidence partagée, mais d'autant plus surprenante, que l'expression même « universalisme des Lumières », qui nous semble si familière, était quasiment inconnue avant le début du XXIe siècle. On pourrait presque penser qu'elle en dit davantage sur nos espoirs et nos hantises que sur la philosophie du XVIIIe siècle. Et donc, partons, si vous le voulez bien, de nos obsessions contemporaines. Ce qu'il est convenu d'appeler l'universalisme des Lumières se situe au croisement de deux grands débats intellectuels et politiques qui sont parfois confondus, mais qu'il faudrait néanmoins distinguer si l'on veut comprendre quelque chose aux controverses actuelles. Alors, le premier débat porte sur le caractère universel des valeurs sur lesquelles s'est fondée la modernité européenne. Ce débat s'est développé, il a pris son essor et sa forme dans la seconde moitié du XXe siècle, dans le sillage de la grande vague des décolonisations. Jusque-là, la domination européenne, puis occidentale en ajoutant l'Amérique du Nord, était incontestable. Domination politique par le biais des empires coloniaux, mais aussi domination idéologique dans le modèle sur lequel reposait cette supériorité géopolitique, apparaissait attractif. De l'Amérique du Sud au Japon, en passant par la Turquie, les élites modernisatrices cherchaient à imiter ce modèle sur le mode de l'émulation. La situation a changé après les deux guerres mondiales, à la fois parce que le prestige moral de l'Europe s'était abîmé et parce qu'émergeaient de nouvelles nations et de nouvelles puissances sur la scène internationale, donnant progressivement naissance à un monde multipolaire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette évolution s'est accompagnée, sur le plan intellectuel, d'une critique, parfois virulente, de la façon dont l'Europe avait cherché à imposer au monde son modèle au nom de valeurs qu'elle proclamait universelles. L'universalisme occidental, qui associe les droits de l'homme, le libéralisme économique et une philosophie du progrès, a donc été dénoncé. Certaines critiques ont reproché aux puissances européennes d'avoir instrumentalisé les valeurs libérales pour promouvoir leurs intérêts coloniaux ou simplement économiques. D'autres, plus radicales encore, ont remis en cause ces mêmes valeurs et leurs prétentions universelles, pas simplement leur instrumentalisation au service d'intérêts, mais ces valeurs elles-mêmes, les droits de l'homme, par exemple, issus des révolutions atlantiques de la fin du XVIIIe siècle, dans cette perspective, ne seraient que les droits de l'homme blanc européen, une idéologie individualiste apparue dans un lieu et un moment particulier de l'histoire mondiale et qui n'aurait donc aucune légitimité particulière à s'imposer à d'autres cultures et à d'autres sociétés fondées sur des solidarités communautaires, par exemple, attachées à des traditions religieuses ou philosophiques, ou encore entretenant un rapport différent, moins utilitariste, à la nature. De même, la science moderne, désenchantée et instrumentale, derrière son idéal de rationalité universelle, aurait mis le monde et la nature en coupe réglée, aboutissant à une paradoxale déshumanisation et à l'actuelle crise écologique. Vous voyez, cette perspective, que je résume en quelques phrases, est au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui, pour simplifier, la pensée décoloniale. Dans ce contexte, les Lumières, bien sûr, font figure d'accusés. J'avais essayé de le montrer dans un chapitre de mon livre sur l'héritage des Lumières. Cette critique est parfois justifiée et utile, il faut le reconnaître, elle oblige à revenir au texte, sans fétichisme, elle oblige à être sensible aux contradictions des philosophes du XVIIIe siècle, à leur timidité, voire à leur aveuglement par rapport à l'esclavage, à leur biais eurocentriste ou encore à leur préjugés misogynes. Mais elle s'égare aussi, cette critique décoloniale, dans certaines outrances ou des caricatures, lorsqu'elle peint les Lumières comme un courant de pensée uniformément raciste et impérialiste, alors qu'en vérité, les Lumières étaient plurielles et que de très nombreuses voix se sont élevées au XVIIIe siècle pour dénoncer l'impérialisme et l'arrogance européenne, pour plaider avec vigueur le droit des esclaves noirs ou des peuples colonisés. Et à ce titre, on remarque au moins une contradiction ou du moins une ambiguïté. Reproche-t-on aux Lumières d'avoir été trop universalistes ou de ne pas l'avoir été assez? Par exemple, lorsqu'on accuse Voltaire, on va peut-être faire comme ça, ça sera plus simple, voilà, peut-être, lorsqu'on accuse Voltaire pour les propos racistes ou judéophobes que l'on trouve effectivement et malheureusement sous sa plume, ce n'est pas l'universalité de la condition humaine et de la tolérance que l'on met en cause. Ce sont les insuffisances et les préjugés de Voltaire, son manque d'universalisme, justement. De même, lorsqu'on s'étonne que les révolutionnaires n'aient pas aboli l'esclavage dès l'été 1789, on ne remet pas en cause l'égalité naturelle des hommes, mais la timidité des constituants peu pressés de se hisser à la hauteur de leurs propres principes. Plus radicale est l'objection qui rejette l'universalité des Lumières, je le disais tout à l'heure, comme un idéal strictement européen ou occidental. Dans le monde globalisé et contemporain, on assiste alors à un conflit des universels. Face à l'universalisme sécularisé et libéral des droits humains, qui prend d'ailleurs, notons-le, des formes différentes de part et d'autre de l'Atlantique, il existe d'autres universalismes revendiqués, des universalismes religieux, portés notamment par l'islam radical, mais aussi par des mouvements évangéliques, ou encore des idéologies qui adhèrent à la modernité technologique et scientifique, sans se rallier au libéralisme des droits individuels, par exemple le néo-confucianisme chinois. Alors même que les sociétés mondiales semblent plus interdépendantes que jamais, il n'existe pas aujourd'hui d'institution qui permettrait de construire un lieu de l'universel à l'échelle globale. Alors, en théorie, c'est bien sûr le rôle du droit international, mais comme l'avait montré Mireille Delmas-Marty, l'introduction difficile des droits de l'homme et de la catégorie d'humanité dans le droit positif révèle ce qu'elle appelait les faiblesses de l'universalisme juridique confronté aux dynamiques de la globalisation, aux intérêts des États et au conflit des valeurs. Ça, c'est ce premier débat qui se situe à l'échelle internationale et de la confrontation entre l'Occident et les autres espaces culturels et politiques. Un second débat autour de l'universalisme s'est développé plus récemment, à partir des années 1990, en réaction aux revendications et aux politiques dites identitaires dans les pays occidentaux. Pour le dire vite, les mobilisations sociales se sont en partie déplacées du terrain économique et social vers un plan plus juridique et symbolique, celui de la lutte contre les discriminations et des demandes de reconnaissance des minorités. Cette évolution a conduit non seulement à l'apparition de nouveaux droits, mais aussi à des politiques publiques, comme la fameuse discrimination positive. Cette question n'est évidemment pas sans lien avec ce qui précède, car ces revendications dites identitaires sont souvent liées aux flux migratoires post-coloniaux qui ont entraîné une diversification culturelle et religieuse des sociétés occidentales. À certains égards, le pluralisme culturel mondial s'est invité à l'intérieur même des États-nations occidentaux. Mais, j'attire votre attention, il faut bien se garder de confondre les deux évolutions et de rabattre, comme on le fait trop souvent, l'émergence des nouvelles revendications identitaires sur la transformation démographique des sociétés occidentales. Pensons notamment à la lutte des femmes pour l'égalité dans tous les domaines, ou aux revendications des minorités sexuelles, dites LGBT, à celles, bien sûr, pour l'égalité raciale aux États-Unis, ou encore aux luttes des minorités régionales ou autochtones en Europe, en Amérique du Nord ou dans les territoires d'outre-mer. C'est une erreur d'appréciation d'identifier trop étroitement les revendications identitaires ou minoritaires à la situation postcoloniale. Il s'agit plutôt d'une prise de conscience nouvelle au sein même des sociétés européennes que des injustices longtemps tues ou minorées, des inégalités devenues insupportables, imposaient de nouvelles formes de lutte. De même que les luttes sociales des 19e et 20e siècles avaient dénoncé le caractère trop formel d'une égalité juridique insuffisante à réduire les inégalités sociales, de même, les luttes pour la reconnaissance du début du XXIe siècle critiquent le principe de l'universalisme abstrait pour réclamer de nouvelles formes de justice et davantage de pluralisme. Cette question, vous le savez, est une des plus sensibles aujourd'hui dans les démocraties libérales. Elle a suscité d'intenses débats théoriques et politiques autour des possibilités et des dangers de ce qu'on appelle le multiculturalisme. Débats, il faut le reconnaître, qui ne brillent pas toujours par leur sens de la nuance. Sous l'angle de l'idéal d'universalité, il faudrait au minimum distinguer entre des politiques de la reconnaissance qui se pensent et qui se situent dans la continuité des grands combats d'émancipation pour la justice et l'égalité, ceux des droits civiques, ceux de l'égalité entre hommes et femmes, et qui réclament donc plus d'égalité pour plus d'inclusion, et d'autre part, qui existe aussi, l'affirmation essentialiste de communautés indifférentes, voire hostiles, les unes aux autres. Et encore, cette distinction est peut-être trop tranchée, car la revendication d'appartenance à un groupe minoritaire peut très bien n'être qu'une étape nécessaire ou imposée vers l'inclusion égalitaire, soit sous la forme de ce que Gayatri Spivak, une des grandes figures de la pensée postcoloniale, a appelé un essentialisme stratégique. Il faut commencer par se réunir entre soi pour se faire entendre et faire émerger le sens d'une expérience commune, soit, mais ce n'est qu'une étape, soit sous l'angle du retournement du stigmate, quand un sous-groupe, méprisé, montré du doigt, choisit de revendiquer cette même identité stigmatisée, comme l'avait diagnostiqué le sociologue Robert Castel. Alors, en France, le débat a pris une tournure particulière parce que la centralisation politique, le caractère indivisible de la République et l'importance de la laïcité entretiennent un imaginaire national unanimiste, hostile à toute prise en compte des identités particulières. En réaction aux nouvelles luttes minoritaires, le thème de l'universalisme républicain a émergé à partir du milieu des années 1990 dans le contexte des débats houleux qui ont conduit à la loi du 6 juin 2000 sur la parité, qui imposait, vous vous en souvenez, aux partis politiques de présenter une moitié de candidatures féminines aux élections. Les adversaires de la loi, y compris des intellectuels qui se réclamaient du féminisme universaliste, comme Elisabeth Badinter ou Mona Ozouf, ont alors brandi l'argument d'une tradition républicaine hostile à toute distinction liée au genre ou à l'origine des individus. Tandis que celles qui étaient favorables à la parité, comme Gisèle Halimi ou Sylvia Nagasinski, développaient en retour une critique de ce qu'elles appelaient l'universalisme abstrait et indifférencié qui conduirait à perpétuer les inégalités de genre en les invisibilisant. Et on a vraiment, à la fin des années 90, dans ces débats, l'émergence, dans le débat public, des débats autour de l'universalisme républicain. Ces débats ont d'ailleurs été analysés par l'historienne américaine John Scott, qui y voyait une crise de l'universalisme français. Celui-ci, l'universalisme français, allait pourtant devenir un argument politique de plus en plus central au début des années 2000, dans un contexte international marqué par les attentats islamistes, de New York et de Madrid, sur le plan national, par les débats sur le foulard islamique, sur la fracture coloniale et sur la mémoire de l'esclavage. L'universalisme est alors devenu un mot-clé du langage néo-républicain, évoluant vers des positions de plus en plus conservatrices, hostiles aux revendications issues des minorités, au point que certains historiens du discours républicain, comme Jean-Fabien Spitz, ont diagnostiqué, je cite, « un nouvel intégrisme politique ». Cet universalisme républicain, c'était pas ça, c'était ça, voilà. Cet universalisme républicain se revendique explicitement de l'héritage des Lumières et reproche à ses adversaires de l'avoir trahi. Ainsi, il y a 2 ans, en janvier 2022, un colloque s'est tenu à la Sorbonne, sous le patronage du ministre de l'Éducation nationale, qui était explicitement dirigé contre, je cite, l'idéologie woke et la déconstruction, et défendait l'universalisme, je cite, contre les personnes à qui les idées des Lumières font peur. Alors le terme universalisme dans ce contexte pourrait prêter à confusion, tant ses promoteurs insistent sur l'idée d'une spécificité politique nationale, au point de parler d'un universalisme français ou à la française, dont la laïcité serait le marqueur principal. Mais qu'est-ce qu'un universalisme uniquement et spécifiquement français? Comme l'écrivait Naomi Shor, une historienne de la littérature française trop tôt disparue, cet oxymore, universalisme français, puise sa force dans une idéologie de très longue durée, spectrale, disait-elle, selon laquelle la France serait le pays de l'universel, dont les deux piliers seraient la Déclaration des droits de l'homme et la langue française. Et de fait, notre pays entretient depuis 2 siècles la conviction que son histoire est à ce point unique qu'elle l'autorise à prodiguer des leçons au monde entier, au point d'en faire un élément central de la conscience qu'il entretient de lui-même, dans un équilibre toujours précaire, il faut bien le dire, entre le sublime et le ridicule, si vous voulez, entre Victor Hugo et OSS 117. Le succès politique récent du terme universalisme tient certainement au fait justement qu'il conjure le risque de provincialisme inhérent à l'idée d'un modèle politique irréductiblement français. Or, se réclamer des Lumières permet de renouer avec un autre versant de l'universalisme, le discours prosélyte, édifiant, celui d'une mission civilisatrice de la France chargée d'éclairer le monde. Ne souriez pas, c'est un thème que l'on retrouve de façon récurrente, par exemple, chez l'actuel président de la République, dès son discours de victoire, le 7 mai 2017, dans la cour du Louvre, devant la pyramide, Emmanuel Macron déclarait « L'Europe et le monde attendent de nous que nous défendions partout l'esprit des Lumières ». Alors le croisement de ces deux débats, ça, c'est là que je voulais en venir, croisement de ces deux débats, celui sur l'universalisme occidental à l'épreuve du monde multipolaire et celui sur l'universalisme républicain confronté aux nouvelles demandes de justice, ont donc en commun de renvoyer inlassablement aux Lumières, considérées par leurs défenseurs comme par leurs détracteurs, comme l'origine de l'universalisme, qu'il s'agisse de la mission civilisatrice de l'Occident ou de la laïcité républicaine à la française. Et c'est donc ce qui me conduit cette année à m'interroger sur cet universalisme que l'on attribue aux Lumières. Alors avant d'y venir, je voudrais faire un détour par quelques propositions contemporaines qui nous aident à penser la pluralité des définitions de l'universel. Donc je me déplace des débats de l'espace public vers des débats plutôt de l'espace philosophique avant de revenir au XVIIIe siècle. Alors la première de ces propositions, elle vous est sans doute familière, c'est la notion d'universalisme latéral que Souleymane Bachir Diagne oppose à l'universalisme de surplomb. Cette distinction, il l'emprunte à un texte de Maurice Merleau-Ponty, rédigé en 1959, 4 ans après la conférence de Bandung qui marquait l'apparition sur la scène internationale des nouveaux pays du Sud. Le contexte intellectuel immédiat dans lequel Merleau-Ponty écrit ce texte est différent, c'est l'élection de Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Merleau-Ponty était amené alors à réfléchir aux conséquences pour la philosophie de l'anthropologie sociale de Mauss à Lévi-Strauss, et c'est d'ailleurs le titre de son article. Ce qui l'intéressait, c'était la façon dont l'anthropologie, comme discipline, travaille la notion de structure dans un va-et-vient permanent entre la théorie, qui met en lumière des faits anthropologiques universels, et l'ethnographie ancrée dans l'expérience concrète des individus et des sociétés, c'est-à-dire des singularités empiriques. Le chercheur est amené à faire un détour par l'altérité, c'est-à-dire le terrain, avant de revenir à ce qui lui est familier, riche désormais d'une distance critique et apte à se faire, je cite Merleau-Ponty, l'ethnographe de sa propre société, grâce à la prise en considération de l'égale importance et dignité des cultures. Ce texte de circonstance permettait aussi à Merleau-Ponty d'approfondir une question à laquelle il ne cessait de se confronter depuis la fin des années 1940 et qui était née de l'insatisfaction à l'égard d'un autre universalisme, le marxisme triomphant, à vocation scientifique. À la philosophie de l'histoire marxiste, Merleau-Ponty opposait en effet la prise en compte des singularités, ce qu'il appelait des différences comme différences. Dans un texte, il écrivait ça dans un texte de 1948. Son rejet d'une théorie surplombante, indifférente aux particuliers, avait été un des grands motifs de sa rupture avec Jean-Paul Sartre en 1953. Sartre lui reprochait, comme il l'avait fait à Albert Camus, de ne pas se hisser à la hauteur de l'universel, c'est-à-dire de la philosophie de l'histoire marxiste. Se hisser à la hauteur de l'universel, pour Sartre, ça voulait dire s'arracher à tous ses attachements personnels, biographiques, subjectifs. Comme l'a montré Judith Revel, le désaccord portait sur le rapport au temps et à l'histoire, sur la pluralité des voies vers l'émancipation. En 1959, donc 2 ans avant sa mort, Merleau-Ponty prolongeait cette réflexion grâce à la rencontre avec l'anthropologie sociale qui lui permettait de déplacer la question à l'échelle de la diversité des cultures humaines. Depuis plusieurs années, Souleymane Bachir Diagne s'est appuyé sur ce texte pour développer avec constance son propre idéal d'un universel vraiment universel, comme il aime à dire, ou encore d'un universel de la traduction. L'hypothèse centrale, c'est que l'universalisme ne peut pas se construire par abstraction, sur la base d'une logique formelle ou d'une langue unique, mais uniquement par reconnaissance de la pluralité des langues. Il est essentiel de bien comprendre que cette proposition ne vise pas à revendiquer l'étanchéité des cultures, mais bien d'affirmer que chaque langue apporte sa part singulière à notre conception de l'humanité et que l'universel n'implique pas l'effacement de cette pluralité, mais qu'il doit au contraire se nourrir de cette richesse. C'est la démonstration, certains s'en souviennent, que Souleymane Bachir Diagne a donnée ici même, il y a quelques mois, dans le colloque sur les lumières plurielles, où il avait montré que les mots « Ubuntu » en langue bantoue et « Nité » en Wolof, une fois élaborés comme des concepts philosophiques, permettent de penser un humanisme plus universel, une façon d'approfondir l'humanité au-delà de l'individualisme associé à l'humanisme occidental, mais en dialogue avec lui. Alors bien sûr, la question reste ouverte de savoir comment on reconstruit l'universel sur la base de cette prise en compte de la diversité des langues. L'universalisme latéral garde une part de mystère, au sens où il n'offre pas, clé en main, un contenu universel immédiatement disponible. Il s'agit plutôt d'un idéal régulateur qui nous permet de rappeler qu'à côté de l'universel décrété depuis une position d'autorité, cet universel abstrait qu'Aimé Césaire dénonçait comme un universel décharné, il existe un autre horizon universaliste fondé sur la prise en considération et le dialogue des traditions. Un universel riche de tous les particuliers, disait aussi Aimé Césaire, qui lui aussi d'ailleurs, polémiquer avec un certain universalisme marxiste, incarné à l'époque par le Parti communiste de Maurice Thorez. Ces approches exercent aujourd'hui une influence considérable sur tous ceux qui s'efforcent de penser l'universel après l'universalisme, selon la formule de Marcus Messling, dans un livre consacré aux littératures francophones contemporaines. Elle nous intéresse d'autant plus que, nous le verrons dans les cours qui viennent, la question des langues et de leur diversité est une des questions fondamentales auxquelles se sont confrontés les philosophes des Lumières dans leurs débats pour penser une histoire et une morale universelle. On peut toutefois se demander si cet idéal ne pèche pas par un certain irénisme, une confiance excessive accordée au dialogue, à la traduction et à l'échange. Quelle place faire à la confrontation, voire à la violence, dès lors que des conceptions antagonistes s'opposent? On peut alors se tourner vers le philosophe américain Michael Walzer, bien connu notamment pour son livre sur la pluralité des sphères de justice, publié en 1983, mais je vais m'appuyer ici plutôt sur une conférence que Walzer a donnée en 1989, dans laquelle il distinguait deux sortes d'universalisme présents dans la Bible, aux origines donc de la culture occidentale. D'abord, ce qu'il appelle un universalisme surplombant, law covering, qui impose une loi unique à tous, et dont le modèle est la loi religieuse monothéiste. D'autre part, à côté de cet universalisme de la loi, Walzer identifie ce qu'il nomme un universalisme réitératif, qui correspond à la répétition d'épisodes particuliers de révolte et de sécession par lesquels une communauté ethnique ou religieuse cherche à échapper à la domination et à l'injustice. Le modèle, selon lui, en est fourni par la sortie d'Égypte des Hébreux. Alors pourquoi parler d'universalisme dans ce cas? Eh bien, d'après Walzer, parce que ces épisodes, par leur répétition au cours de l'histoire, offrent un modèle où l'on reconnaît chaque fois le même motif, celui du désir de liberté, du refus de l'injustice, de la révolte contre une loi unique et inique. C'est au fond un universalisme de la libération. Il y a donc quelque chose d'universel dans le fait que des individus opprimés se soulèvent contre l'oppression et revendiquent leur liberté. Alors, l'ambiguïté ici, de l'exemple des Hébreux, qu'il ne s'agit pas seulement de se révolter pour exiger l'égalité, mais bien de faire sécession, de constituer une communauté autonome sur une base ethnique et religieuse. Alors, on voit bien que ce modèle est différent de celui de l'universalisme latéral, même si l'un et l'autre opposent un universel concret enraciné dans des particularités et des valeurs partagées à un universel de surplomb, à une loi uniforme. L'universalisme réitératif de Walzer ne repose pas sur le dialogue, la traduction ou l'échange, mais sur le soulèvement et la rupture. Je ne rentre pas ici dans le débat qui intéresse les philosophes pour savoir si Walzer est un pluraliste ou un communautariste. Ce qui m'intéresse, c'est l'insistance sur le fait que la visée de l'universel peut se faire par la révolte contre un ordre normatif à la fois religieux, politique et social qui se donne lui-même comme universel. Nous aurons l'occasion d'y revenir car c'est une question très présente au XVIIIe siècle, par exemple autour de la question des révoltes d'esclaves. Le thème du Spartacus noir, appelé à libérer les esclaves par la violence, est une des figures que prend la réflexion universaliste des Lumières. Je voudrais insister sur le fait que ce thème d'un universalisme réitératif ou libérateur peut prendre deux formes, selon que l'on insiste sur le geste du soulèvement ou sur la critique de l'injustice. Dans le premier cas, on aboutit à ce que l'anthropologue Massimiliano Tomba appelle l'universalité insurgente ou insurrectionnelle. Celle, par exemple, et c'est un des exemples qu'il développe, celle des esclaves de Saint-Domingue en 1791 se soulevant pour leur liberté dans une révolution qui aboutira à l'indépendance d'Haïti en 1804. Dans le second cas, on insiste plutôt sur la demande de justice émanant de groupes discriminés dans des sociétés démocratiques et pluralistes, et on est conduit à réfléchir aux formes que peuvent prendre les luttes pour la reconnaissance. C'est ce que fait, par exemple, dans un livre paru cet automne, le philosophe Bruno Perrot, qui développe l'idée, a priori paradoxale, d'un universalisme minoritaire, fondé justement, cette théorie est fondée, son livre, sur une relecture critique des sphères de justice de Walzer, devenues, chez Perrot, des sphères d'injustice. L'idée essentielle ici est que l'exigence d'universalité se construit aussi à partir d'expériences individuelles et collectives d'injustice, par exemple la discrimination. Alors ces réflexions vont nous être utiles parce qu'elles nous permettent de penser que la critique de l'universalisme comme absolu, comme une loi qui s'impose à tous et toutes de la même façon, eh bien, cette critique ne conduit pas nécessairement, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, à l'enfermement essentialiste dans des identités communautaires. Elle peut, au contraire, mener vers d'autres figures de l'universel, d'autres gestes visant l'universalité. Mais ces propositions ont en commun, et c'est peut-être leur talon d'Achille, d'opposer systématiquement un bon universalisme et un mauvais universalisme. Le premier étant surplombant, abstrait, législatif, le second pluraliste, ancré dans le particulier, dans la diversité du monde, dans les revendications minoritaires. On peut penser que ces systèmes binaires sont un peu manichéens, et par ailleurs, ils sous-estiment que l'universalisme de surplomb, dans une société démocratique et libérale, n'est pas une loi qui s'impose à tous comme la loi divine dans la Bible, mais qu'elle repose sur un travail de délibération politique et sur la dynamique des débats publics. Il faut alors situer la critique à l'intérieur même de l'universalisme moderne et démocratique fondé sur l'autonomie morale des individus et l'horizon cosmopolite de l'humanité. C'est ce qu'a fait notamment la philosophe Eleni Varikas dans un livre trop peu commenté, à mon sens, où elle a décrit ce qu'elle appelle les antinomies de l'émancipation. Depuis la Révolution française, l'universalisme entretient une double dynamique. D'une part, il impose une logique majoritaire où toute différence est perçue comme une particularité et donc comme une déviation à la norme, celle-ci étant établie sur le groupe principal devenu le critère de l'universel. De l'autre, en posant des droits et un horizon cosmopolite, l'universalisme rompt avec les sociétés hiérarchiques du passé. Il abolit les inégalités statutaires et il offre à tous et à toutes un idéal émancipateur. Donc vous voyez, c'est ça l'antinomie de l'universalisme, c'est le fait qu'il est à la fois une idéologie qui peut devenir répressive et une espérance qu'il faut entretenir. Cette contradiction au sein de l'universalisme, les historiens et les historiennes de la Révolution française et des mouvements émancipateurs l'ont très souvent décrite. Ainsi, et là encore nous aurons l'occasion d'y revenir beaucoup plus longuement lors d'une séance, alors même que la Révolution de 1789 n'abolit pas l'esclavage dans les colonies, enfin pas tout de suite, elle l'abolira en 1794, eh bien les esclaves, se sont, en tout cas certains d'entre eux, se sont réclamés des droits de l'homme proclamés en 1789 pour revendiquer leur liberté, prouvant ainsi, selon la formule de Cilliane Larcher, que l'universel n'appartient à personne. Dans les Antilles, comme elle l'a montré, toute l'histoire du XIXe siècle sera marquée par des conflits autour de l'accès à la citoyenneté des esclaves, mais aussi des anciens esclaves, puisque ceux-ci, les anciens esclaves, garderont un statut, même après l'émancipation, marqué par un régime d'exception. La question ici est bien celle de la gestion des différences au cœur même de l'universalisme moderne. L'aspiration égalitaire, fondée sur l'idéal d'une commune égalité, une commune humanité, produit ses propres exclusions en repoussant aux marges de la communauté politique certains individus ou certains groupes jugés trop différents. Dans une série d'articles qu'il a consacré depuis 20 ans à cette question de l'universel, Étienne Balibar est allé un cran plus loin en constatant, en affirmant qu'il existe entre les êtres humains des différences irréductibles qu'il qualifie de différences anthropologiques et qui ont elles-mêmes un caractère universel. Et il pense principalement à la différence homme-femme, mais aussi aux différences ethniques et culturelles. Alors, c'est évidemment une affirmation qui peut paraître périlleuse, car elle pourrait conduire à l'essentialisation de ces différences. Mais ce n'est pas du tout le chemin qu'emprunte Étienne Balibar. Il insiste au contraire sur le fait que ces différences ne sont pas fixes, elles sont mouvantes. Et ce n'est donc pas leur contenu qui est universel, mais le fait que l'humanité n'est jamais uniforme, qu'elle est toujours irrémédiablement partagée selon des lignes qui elles-mêmes se déplacent, y compris, et nous le savons bien aujourd'hui, les lignes qui partagent par exemple le masculin et le féminin. La conséquence essentielle se situe au niveau des subjectivités des individus. Dans les sociétés modernes et libérales, chaque être humain est partagé entre deux aspirations que l'on peut qualifier d'universelles, celle qui consiste à être reconnu comme un être humain à part entière, indépendamment de toute assignation, et celle qui lui permet de penser et d'affirmer sa spécificité en revendiquant non pas une identité, mais un ensemble de différences. Si bien qu'il y a, selon Balibar, autant de violence à nier ces différences en les considérant comme indifférentes ou en réprimant leur expression, qu'à les absolutiser en les transformant en des identités qui enfermeraient les individus dans des communautés séparées. Au fond, le véritable universalisme désignerait précisément la tension permanente entre le dépassement des différences et leur affirmation. Alors vous voyez que ces critiques de l'universalisme que j'ai présentées très rapidement ne sont pas des dénonciations, elles sont bien des critiques au sens où elles ne renoncent pas à l'universel comme horizon, comme idéal, mais elles pointent des contradictions, des conflits qui se situent au cœur de l'universalisme comme discours et comme projet. Elle pointe son potentiel indissociablement répressif et émancipateur. Elles nous permettent ainsi de desserrer un peu ce que j'appelais tout à l'heure le chantage à l'universel, et donc de nous familiariser avec l'idée que l'universel peut être l'objet d'une pluralité de discours et qu'il est loin d'avoir la cohérence qu'on lui prête trop souvent. Bonne nouvelle, nous voici donc armés pour aborder le XVIIIe siècle, cette période où tout le monde, y compris les auteurs que je viens de citer, s'accorde à trouver l'acte de naissance d'un universalisme rationaliste, abstrait et surplombant. Or, une première surprise nous attend. Le mot « universalisme » n'existe pas au XVIIIe siècle. Quant à l'adjectif « universaliste », il est extrêmement rare et il renvoie exclusivement à des débats théologiques sur la question du salut, puisqu'il désigne ceux, les Arminiens notamment, qui pensent que tous les hommes seront sauvés grâce au sacrifice du Christ, position évidemment hostile à toute forme de prédestination. Alors, c'est au demeurant un indice et une piste intéressante qu'il faudra suivre. Comme je vous le montrerai la semaine prochaine, l'universalisme moderne n'est pas sorti tout armé de la cuisse de Voltaire ou de la tête d'Emmanuel Kant, il est la réponse à une profonde crise de l'universalisme chrétien et médiéval qui a obligé les intellectuels européens à inventer de nouvelles règles de morale et de justice adaptées à la situation nouvelle de leur temps, un monde marqué par l'essor du commerce, la sécularisation des croyances, l'affirmation des États nationaux et la découverte d'autres civilisations. Alors, si le terme universalisme est presque inusité, enfin, universalisme est inusité. L'adjectif universel, en revanche, est d'usage courant au XVIIIe siècle. On parle d'histoire universelle, de raison universelle, de langue universelle, de savoir universel. On peut alors en déduire que les Lumières font bien de l'universel la marque de leur philosophie. Sauf que, en réalité, les choses sont évidemment plus compliquées. Prenons l'exemple de l'histoire universelle, qui désigne une histoire générale du genre humain. Eh bien, le terme est évidemment plus ancien. On le trouve, par exemple, fréquemment au XVIIe siècle, et dans la première moitié du XVIIIe siècle, l'expression renvoie notamment, et même principalement, à Bossuet, dont le discours sur l'histoire universelle, rédigé en 1681 pour le Dauphin, est justement considéré par Voltaire comme un repoussoir, comme le symbole d'une vision chrétienne de l'histoire placée sous les auspices de la Providence. La critique de cet universel étriqué devient même un leitmotiv sous la plume du philosophe. Il écrira à son tour une histoire du monde, qu'il prend soin d'ailleurs d'appeler « histoire générale » pour mieux critiquer dès la préface l'entreprise de Bossuet, qu'il accuse, j'ai toujours bien aimé cette expression, il l'accuse d'avoir oublié l'univers dans une histoire universelle, c'est-à-dire de s'être concentré sur l'histoire chrétienne européenne. Et de fait, Voltaire ouvre son essai sur les mœurs, c'est l'autre nom de son histoire générale, il l'ouvre avec une histoire des civilisations indiennes et chinoises, par souci de remettre l'Europe à sa place, de provincialiser l'Europe, pourrait-on dire, si on avait mauvais esprit, ce qui évidemment n'est pas mon cas. Ben, écoutons plutôt Voltaire lui-même, qui ne cesse d'y revenir. Par exemple, dans un conte publié en 1769, qui n'est pas le plus célèbre, ni d'ailleurs le meilleur de ses contes, enfin, il existe, il s'appelle « Les lettres d'Amabed », il raconte l'histoire d'un jeune Indien qui découvre l'Europe. Au tout début du conte, celui-ci, avant même d'avoir quitté l'Inde, fait à Goa la rencontre d'un prêtre portugais et il écrit à son mentor, voilà que, hop, excusez-moi, et il écrit à son mentor, un éminent brahmane, ceci. Nous avons lu ensemble un livre de son pays qui m'a paru bien étrange. C'est une histoire universelle du monde entier dans laquelle il n'est pas dit un mot de notre antique empire. Rien des immenses contrées au-delà du Gange, rien de la Chine, rien de la vaste Tartarie. Il faut que les auteurs dans cette partie de l'Europe soient bien ignorants. Je les compare à des villageois qui parlent avec emphase de leur chaumière et qui ne savent pas où est la capitale. Ou plutôt à ceux qui pensent que le monde finit aux bornes de leur horizon. Alors, comme vous le voyez, une double tension s'installe. D'une part, la critique porte sur l'extension de l'universel. Voltaire élargit le regard, inclut les grandes civilisations asiatiques, prône une histoire véritablement universelle qui se déploierait à l'échelle du monde nouveau, prenant acte des effets de la première mondialisation, de cet englobement du monde décrit par Antonella Romano, par lequel les auteurs des XVIe et XVIIe siècles ont progressivement intégré la dimension globale de l'univers, notamment par la découverte de l'immense empire chinois et de son histoire millénaire. On pourrait alors dire que Voltaire substitue un universel global et sécularisé à l'universel européen et chrétien de Bossuet. Mais il est clair aussi que c'est la notion même d'universel qui se trouble. Chez Bossuet, l'histoire est universelle parce qu'elle est une histoire dominée par la providence divine. Elle est guidée par un principe unique, universel, dont le déploiement lui donne son sens. Alors que chez Voltaire, il s'agit d'abord d'une histoire générale, une histoire qui cherche à prendre en considération le plus grand nombre d'expériences possibles, au risque de la prolifération de récits disparates. Or, cette opposition est en réalité une tension inscrite au cœur même de l'universalisme entre, d'une part, une définition normative de l'universel qui désigne un principe nécessaire, absolu, toujours valable, et une définition empirique de l'universel, c'est-à-dire de ce qui est commun à tous. Par exemple, quand Rousseau écrit, au début du contrat social, cette phrase si célèbre, « L'homme est né libre et partout, il est dans les fers », eh bien, il associe deux affirmations universelles. Un principe philosophique fondé sur la raison, celui de la liberté naturelle de l'homme, et un constat empirique, observable, fondé sur l'expérience, celui de l'existence universelle de la domination politique dans toutes les parties du monde. Cette tension ne se situe pas seulement sur le plan de l'histoire ou de la philosophie politique. Elle est au cœur des difficultés à élaborer une morale universelle, cette question essentielle, irrésolue, incertaine, autour de laquelle gravitent tous les débats philosophiques de l'époque. Comment fonder une morale qui soit à la fois universelle et non dogmatique, c'est-à-dire qui échappe totalement à la théologie? Comment articuler l'aspiration à une norme universelle où la philosophie morale fondée sur la raison prendrait le relais des religions révélées et, d'autre part, la prise en compte de la diversité observable des sociétés et des cultures? Alors, pour illustrer ce point et pour terminer, je voudrais revenir à un texte qui nous a accompagnés toute l'année dernière, le supplément Voyage de Bougainville. J'ai tenu 53 minutes, vous voyez, je suis assez fier de moi, mais je suis en retard. Alors, vous vous souvenez que le premier grand morceau de bravoure du texte, Les adieux du vieillard, lance une attaque en règle contre les prétentions de Bougainville, contre ce que le vieillard appelle ses inutiles lumières. Diderot met donc dans la bouche d'un Tahitien, maudissant les envahisseurs européens, une condamnation sans appel des prétentions universalistes de l'Europe, aussi bien celles qui sont attachées au christianisme que celles de la nouvelle culture savante des Lumières, les inutiles Lumières. Et il dévoile la contrainte militaire qui menace d'imposer l'universel par la violence en détruisant les coutumes et les traditions tahitiennes. Alors faut-il pour autant voir en Diderot un relativiste hostile à toute morale universelle? Cela paraît peu probable. Faut-il réduire les imprécations du vieillard à un morceau d'éloquence? De fait, un deuxième personnage tahitien, Auroux, semble incarner une position différente. Dans son long dialogue avec l'aumônier français, il incarne la voix de la raison face aux préjugés et aux conventions de la morale européenne. À l'aumônier décontenancé par la liberté sexuelle qui règne à Tahiti et qui est entièrement tournée vers un double objectif de plaisir physique et de croissance démographique, eh bien, Auroux lui donne une leçon d'universalisme moral. Les lois européennes, celles des prêtres comme celles des magistrats, lui dit-il, sont opposées à la nature et contraires à la raison. Opposées à la nature et contraires à la nation et à la raison, ils ne peuvent que susciter des conflits insolubles. Et il leur repose cette maxime « Veux-tu savoir, en tout temps et en tout lieu, ce qui est bon et mauvais ? Attache-toi à la nature des choses et des actions, à tes rapports avec ton semblable, à l'influence de ta conduite sur ton utilité particulière et sur le bien général. En tout temps et en tout lieu. » Voilà une définition simple et efficace de l'universalisme, des règles morales qui ne dépendent pas des circonstances ni du contexte. Pourtant, à y regarder de près, Auroux ne parle pas de ce qui est bon et mauvais en tout temps et en tout lieu, comme si le contenu de la morale était toujours et partout inchangé. Diderot lui fait dire « Veux-tu savoir en tout temps et en tout lieu ce qui est bon et mauvais ?» Petite nuance, hein, avec je chipote, mais en fait, ça veut dire que ce sont les règles du jugement qui sont universelles, et non le contenu de la morale. Et ceci pour une bonne raison. C'est que ce jugement doit prendre en considération des éléments hétérogènes. D'abord, vous voyez, premier élément, la nature des choses et des actions. Et Diderot entend par là ce qui est bon ou mauvais en soi, indépendamment des jugements de valeur que les différentes cultures attachent à tel ou tel acte. Ainsi, le meurtre est naturellement mauvais, mais l'acte sexuel est en soi indifférent. Ce sont des représentations culturelles qui conduisent à le condamner, par exemple, la valorisation religieuse de la chasteté ou la défense bourgeoise de la fidélité conjugale. Mais Auroux ne s'arrête pas là. Il ajoute un deuxième élément, les rapports avec ton semblable. Et nous entrons ici dans le domaine du cosmopolitisme. L'universalisme consiste à voir tout être humain comme un semblable, au-delà de toute frontière religieuse, culturelle ou nationale. La morale de Diderot est ainsi indissociable d'une anthropologie, c'est-à-dire d'une réflexion sur ce qui définit l'espèce humaine en tant que telle. Enfin, et c'est le troisième élément, il faut prendre en compte ce que Diderot appelle l'utilité particulière et générale, ce qui implique la question des intérêts, ceux de l'individu et ceux de la société dans laquelle il vit. L'utilité est en effet un des mots-clés de la morale que les philosophes matérialistes cherchent à produire, comme l'a montré récemment Sophie Audidière dans un livre dont je reparlerai plus longuement. Diderot a réintroduit ici un principe éminemment variable et relatif, car ce qui est utile dans une société particulière ne l'est pas toujours dans une autre. Ainsi, les règles de la sexualité à Tahiti sont liées aux besoins démographiques de l'île, comme Auroux le rappelle, dans un monde où les bras sont trop rares. Bref, l'universel fondé sur la nature de l'homme oriente vers une morale minimale, mais ne permet pas de hiérarchiser les sociétés et les cultures. Alors, que retenir de ce bref extrait ? D'abord que la pensée de l'universel, chez Diderot, comme chez de nombreux penseurs des Lumières, est tout sauf dogmatique. Elle ouvre plutôt un espace d'interrogation et de perplexité. La question originelle est la suivante : comment fonder de nouvelles normes morales, émancipées à la fois de la morale religieuse et des conventions sociales ? Diderot a cru d'abord dans sa jeunesse trouver cette norme dans le cœur humain, dans une bienfaisance naturelle, un sens moral inné commun à tous les hommes. Plus tard, son matérialisme l'a conduit à chercher dans la nature le principe suprême capable de fonder un code universel. C'est souvent ainsi qu'on lit le supplément. Mais la réalité est plus complexe, car la nature est une catégorie trop polysémique, trop ambivalente. Tout est dans la nature, même le vice, dit un des protagonistes du discours, du dialogue. C'est donc dans un équilibre entre la nature et l'utilité sociale qu'il faut chercher la solution. Mais alors, si les règles de jugement sont universelles, vous le voyez ici, le contenu de la morale, lui, ne peut que changer. Chaque société doit inventer ses propres règles. Il n'est d'ailleurs pas anodin que la sexualité soit le sujet privilégié de ces réflexions, car elle se situe justement à l'intersection de la pure naturalité, celle de la reproduction et du plaisir physique, et de la socialité sous l'angle des conventions et des préjugés, mais aussi des sentiments, de la jalousie et de l'honneur. La fiction ethnographique de Tahiti permet à Diderot de faire un détour par l'altérité comme exercice de pensée. L'Europe n'a aucune légitimité, dit-il, à imposer aux autres ses propres normes. Le rôle du philosophe est de proposer un écart pour regarder sa société du dehors et pour critiquer ses propres préjugés, non pour s'en glorifier comme d'un modèle à offrir au monde. Dès lors qu'il n'existe plus de normes absolues et que chacun doit penser par lui-même, reconstruire un universel moral et politique devient une tâche énorme, titanesque. Dans cette perspective, il ne peut pas y avoir, il n'y a jamais eu, un universalisme des Lumières, mais des efforts divergents, contradictoires, pour maintenir un horizon d'universalité au cœur de la modernité pluraliste. Alors ce sera l'objet des prochaines séances que de déplier ces efforts, d'en comprendre les enjeux, les contradictions, les succès et les limites. L'universalisme a une histoire, écrit Maurice Samuels dans un livre sur lequel, là encore, nous reviendrons, consacré aux Juifs en France depuis la Révolution. Samuels déconstruit certaines idées reçues à propos de l'assimilationnisme qui serait inhérent au républicanisme français. Il montre que l'universalisme français n'est pas une doctrine arrêtée, mais, je le cite, une série continuelle de renégociations. Alors, dans cette série de cours, je voudrais moi aussi faire confiance à l'histoire tout en élargissant un peu la perspective. Je voudrais vous convaincre qu'une histoire culturelle et politique des idées a quelque chose à nous apprendre de cette histoire de l'universalisme conçue comme un discours philosophique et un langage politique beaucoup moins homogène qu'il n'y paraît. Une histoire non dogmatique qui ne nous dit pas ce que nous devons penser, mais qui redonne aux concepts politiques toute leur richesse et leur complexité, loin des simplifications idéologiques. Il s'agira de comprendre en quoi les Lumières peuvent être dites universalistes, mais aussi d'évaluer dans quelle mesure l'universalisme républicain actuel peut ou non se dire l'héritier des Lumières. Alors, je ne vais pas répondre dès aujourd'hui à cette question, vous l'avez bien compris, d'abord parce qu'il faut que je garde un peu de suspense pour maintenir votre attention dans les semaines qui viennent, et plus sérieusement parce que la réponse, eh bien, vous vous en doutez, sera nuancée. Mais je peux d'ores et déjà, et je m'excuse de dépasser légèrement, mais si vous m'accordez encore 3 minutes, vous présenter, vraiment 3 minutes, vous présenter mes hypothèses de travail, celles qui vont, ce sera 3 minutes, qui vont nous guider dans la lecture des textes que je voudrais vous proposer dans les semaines qui viennent. Ma première hypothèse, elle ne devrait pas vous surprendre, c'est qu'il faut pluraliser l'universalisme des Lumières. Et je distinguerai donc 3 langages de l'universel, largement concurrents. D'abord, ce que j'appelle un universalisme cosmopolite, à teneur juridique, qui promeut l'idéal de tolérance et d'égalité des droits, et que nous suivrons de Pierre Bayle à Lessing et Kant. Ensuite, un universalisme historique, fondé sur la notion de civilisation, qui interroge le rôle de l'histoire, le rôle de l'Europe comme modèle et comme modèle historique. Et Voltaire en est le plus grand promoteur. Et enfin, troisièmement, un universalisme critique dont l'horizon est la libération, voire la révolte contre l'oppression, que nous étudierons chez les abolitionnistes, mais aussi dans la littérature féminine. L'exploration de ces 3 universalismes dans les textes des Lumières nous occupera lors des premières séances jusque fin janvier. Ma deuxième hypothèse, c'est que la Révolution française a totalement rebattu les cartes en inscrivant l'aspiration à l'égalité naturelle dans un cadre politique nouveau, celui de la nation démocratique, ouvrant un espace d'émancipation mais aussi de litige et de conflit autour de l'extension de l'universel et donc de la citoyenneté. En février-mars, nous verrons comment les 3 langages universalistes des Lumières se sont reconfigurés dans ce cadre nouveau, en passant de la morale à la politique, alimentant des débats houleux sur la République universelle du genre humain, sur la construction d'une communauté nationale et sur l'accès aux droits politiques. Mais auparavant, je vous proposerai de prendre un peu de recul historique en plongeant dans une longue durée de l'universalisme, celle des racines médiévales et même antiques de l'universalisme occidental. C'est ce que nous ferons la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.